Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire d'Antoine. On est sorti du confinement et pourtant on a fait cette interview à distance, mais c'est pour une bonne raison puisqu'Antoine vit au Québec. Antoine est français, expatrié avec sa femme au Québec depuis plusieurs années. Il raconte comment s'est passé l'accouchement dans une maison de naissance du côté de Montréal. On parle donc de la préparation à l'accouchement, de l'accouchement dans cette maison de naissance qui est un endroit un peu particulier qu'on connaît assez mal en France. On parle aussi de comment il anticipe l'éducation féministe de son garçon alors qu'il est encore tout petit, il a quelques mois, et pourquoi il est content d'élever son fiston au Québec plutôt qu'en France. Un grand merci à Antoine de m'avoir envoyé ce mail afin qu'il raconte son expérience dans mon podcast. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez l'aider de plusieurs façons. Tout d'abord, en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur l'appli de podcast qui s'appelle Apple Podcast. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Ensuite, abonnez-vous à ce podcast, ainsi qu'à mon autre podcast Histoire de succès. Vous recevrez directement les épisodes dans votre téléphone. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. Enfin, si vous avez aimé cet épisode en particulier ou le podcast en général, merci d'avance de l'envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux et plus globalement d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître Histoire de Daron. Avant de vous laisser, j'aimerais également vous inciter à venir commenter sur le site internet d'Histoire de Daron. C'est sur www.daron.fr. Pour centraliser vos commentaires sur ce site, cliquez sur le lien commenter dans les notes. J'aimerais bien y retrouver un espace commentaire un peu vivant. Voilà, comme à l'époque des blogs, je sais pas si vous vous souvenez. En tout cas, un grand merci d'avance pour vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Je vous laisse en compagnie d'Antoine et je vous dis rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron dans ce podcast. Merci à vous et bonne écoute. On est avec Antoine. Salut Antoine.
Salut.
Ça va?
Ben ouais, ça va super bien. Ici, il fait grand soleil.
Quand tu dis ici, tu m'as envoyé un mail
ouais.
Intitulé « Daron au Québec ».
C'est ça. Donc ici au Québec, dans les Laurentides, pour être plus précis, c'est à une heure au nord de Montréal.
D'accord. On sent d'ailleurs une petite pointe d'accent parce que en fait, t'es pas québécois.
Ben non.
T'es français.
Non, je suis français. Je viens du Sud-Ouest.
Donc ça fait un mélange bizarre d'accent, si tu veux.
Wow, je te permets pas.
Mais c'est vrai qu'on sent une petite intonation dans ta voix d'accent québécois, forcément, quoi. Ça fait maintenant 7 ans, c'est ça, que vous avez...
Exact, ça fait 7 ans.
Que vous êtes arrivé.
Ouais.
Pour quelle raison vous avez décidé, avec ta femme, c'est ça, que tu avais rencontré pour le coup en France ?
En France, ouais.
Ok. Pour quelle raison vous avez décidé de bouger au Québec ?
Moi, au départ, je suis très famille et puis je ne voulais pas du tout bouger. C'est elle qui était plus aventurière, on va dire, et qui disait « Ah, moi, je veux vivre à l'étranger dans ma vie. » Et puis, un jour, on est allé voir des amis qui étudiaient à Montréal. Et on a fait une semaine au bord d'un lac gelé en hiver. En tout cas, c'était féerique. Et puis, en rentrant de ces vacances-là, je lui ai dit « Écoute, si tu veux qu'on bouge quelque part, moi, je suis prêt à tenter le Québec. » Et donc, on est venu avec des visas de touristes.
OK.
Et on ne savait pas combien de temps on restait. Il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, on ne savait pas. Puis finalement, ça fait 7 ans.
Ah ouais?
Ouais. Et on n'est pas prêt de rentrer puisque c'est ça. On s'est installé, on a acheté une maison dans la forêt. On a fait un enfant. Voilà. Et on est bien là.
Effectivement, contrairement, c'est ce que tu disais un peu dans ton mail, mais contrairement à pas mal de Français qui vont en général vivre à Montréal, vous avez décidé de partir vivre à la campagne.
Ouais, ben on a vécu à Montréal pendant un moment, mais tous les deux on vivait à la campagne en France avant les études et tout ça.
Okay.
On est deux ruraux. Et puis on voulait revenir à la campagne à un moment, c'est juste qu'à un moment, tu sais, on a fait le pas, on a dit ouais, ok, là c'est le temps, et puis
d'accord.
Et on y allait.
Alors ouais. Vous, c'est quoi votre activité au Québec? Vous vivez de quoi?
Alors elle est chanceuse, elle travaille à la maison parce qu'elle est traductrice.
Ok.
Ouais. Et je suis très jaloux. Moi, je suis obligé d'aller à Montréal quand je travaille. Je suis perchiste. Perchman, on dit en France. Perchman, donc en cinéma.
Ok, donc en fait, en gros, tu tiens les perches qui tiennent les micros dans le...
Ouais, c'est ça. Je mets les micros au-dessus des acteurs, je mets les micros sur les acteurs. Voilà, c'est ça. C'est moi qui danse un peu avec les acteurs et puis la caméra et puis...
Ok. Ça fait loin, en fait, quand tu dis qu'il faut que tu ailles à Montréal quand tu travailles?
Ouais, quand même, c'est une heure de route.
Ok.
Et ça, c'est quand il n'y a pas de trafic. Sauf que, comme Montréal, c'est une île, tu accèdes par quelques ponts, et puis le matin et le soir, c'est l'enfer total. Donc, je peux mettre des fois 2 heures ou 2 heures et demie pour
aller. Ok. Dans ton métier, j'imagine que tu as des périodes où tu bosses et d'autres périodes où tu bosses moins, de ce fait-là, c'est ça, quand tu as des tournages?
Ouais, exact. Je dirais qu'à peu près, là, en moyenne, je travaille 9 mois dans l'année. C'est ça. Et puis là, je suis en congé parental depuis novembre.
Ok, on va en parler.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ce que je voulais te demander, c'est d'où vient l'idée de faire un bébé, de devenir papa?
C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, moi, depuis... je pense même me rappeler de quand j'avais 10 ans et que je me disais déjà que je voulais un enfant, que je voulais un enfant jeune. Et puis, quand j'ai rencontré ma femme, j'en ai parlé, je pense, dans les 6 premiers mois. Et puis, okay. Elle, je pense, ça lui a fait beaucoup peur.
Vous aviez quel âge?
Ça lui a fait très peur. Alors, on avait 18 ans.
Ah oui, ok.
Ouais, ouais, c'est ça. Et pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on en a 33.
Ok.
Et donc, je ne l'ai pas fait aussi jeune que je voulais. Moi, je pensais qu'à 20 ans, j'aurais mon premier enfant, puis à 30, j'en aurais 4.
OK.
Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, c'est ça, j'en ai toujours voulu. Et puis, elle en voulait, mais pas aussi jeune. Elle voulait attendre d'être installée, d'avoir un boulot, c'est de ne pas être stressée par l'avenir, on va dire. Et puis, ça s'est fait assez naturellement l'année dernière que... C'est ça, on n'en a même pas vraiment reparlé. Ça s'est fait naturellement,
okay.
On va dire.
Ce que je voulais te demander, c'est tu disais que ça coïncidait pas vraiment avec tes plans à la base. C'est notamment à cause ou grâce, je sais pas, à votre situation, c'est ça que vous avez pris un peu plus de temps?
Tu veux dire notre situation au Québec?
Non, mais je sais pas, entre tes 18 et tes 33 ans, qu'est-ce qui fait que vous avez attendu aussi longtemps avant de faire votre premier enfant?
Ben, c'est vraiment elle qui n'était pas prête,
okay.
qui n'avait pas envie de le faire là.
D'accord.
Donc c'est ça, j'ai été patient.
Ok. Et alors, comment ça s'est passé, par exemple, l'annonce du fait que tu vas être papa?
Hey, je travaillais à Toronto, donc assez loin. Là, ça faisait 6 semaines ou 4. Bon, en tout cas, ça faisait quelques semaines qu'on ne se voyait pas. Et puis, elle m'envoie un texto. Je travaillais, j'étais sur le plateau. Elle m'envoie un texto, puis elle me dit « Je peux t'envoyer une photo ?» ouais, ok. Et puis, elle m'envoie juste la photo du test de grossesse. Alors, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça, mon cerveau a quand même bugué parce que j'ai pas compris tout de suite. J'ai vu, en tout cas, ça m'a pris quelques secondes avant de dire « Ouais, ok, ça y est, c'est là ». Et puis, ça a été difficile de travailler après ça. Là. Le reste de la journée, j'ai tremblé. Là. Ça, c'était incroyable.
Parce que vous vous y étiez pas dit à un moment donné « Ok, c'est bon, maintenant, c'est le moment, on y va, c'est ça ?»
Non,
okay.
On se l'était pas dit.
Okay.
On se l'était pas dit, et c'est pour ça. C'est, si tu veux, c'est quelque chose que, tu sais, la contraception, on avait un peu, on dit slacké ici, on avait un peu, on était moins, comment on dit,
moins
intransigeant, on va
ouais,
dire.
Ok, d'accord.
Donc, on savait que ça pouvait arriver, mettons.
Ok, d'accord. Oui, vous étiez dit, bon, bah, peut-être qu'à un moment donné, ça viendra, mais voilà quoi.
C'est ça, mais on n'en avait pas parlé.
Ok. Et donc, j'imagine que pour toi, tu t'es dit, waouh, ça sort de nulle part, quoi.
Ouais, quand même. Ça a été assez bizarre. La seule affaire, c'est qu'elle était venue me voir une semaine avant, à Toronto. Et puis, effectivement, elle me disait, ah, j'ai un petit peu mal au ventre, et puis... Et moi, je n'osais pas lui dire, mais j'étais. Et puis, il me semble que sur une période de, pour tes règles et tout ça. Et puis, en fait, c'est ça. Donc, moi, je m'étais un petit peu fait mon film à l'avance. Et puis, pour une fois, j'avais raison parce que ça m'était arrivé plusieurs fois avant de me faire des films.
Ouais. Ouais. Ok,
c'est un peu émouvant comme moment, là. C'est vrai que je me rends compte que j'arrive pas à trouver mes mots, tu vois. C'est de le revivre, ça fait quelque chose.
Ok. Il a quel âge, alors, votre premier bébé?
Là, il vient d'avoir 5 mois.
Ok, d'accord. Oui, donc ça fait pas si longtemps. Hein.
Non, non, non. Tout récent.
Tu m'as dit que il y avait plein de choses dont que tu voulais aborder, en fait, par rapport aux spécificités de votre expérience au Québec, en particulier.
Ouais.
Je sais pas par où tu souhaites commencer en particulier, mais est-ce que tu veux qu'on le fasse dans l'ordre du style comment s'est passée la grossesse, par exemple?
Ouais, on peut faire ça. Ouais. Moi, en fait, je t'ai écrit parce que j'ai pas tout écouté là, les podcasts, mais j'en ai écouté quelques-uns et je trouvais que les gens qui décrivaient leur expérience en maternité, je trouvais ça avait l'air difficile. Des histoires de il y a qu'un lit pour la mère et puis c'est un lit, une place et puis peut-être une chaise pour le père s'il veut rester là.
Ouais.
Et qu'il y en a qui rentraient passer la première nuit à la maison loin du bébé, loin de leur femme. Moi, je trouvais ça dur et puis j'étais là, peut-être que je pourrais raconter comment ça s'est passé pour nous ici. Et il me semble que c'est ça que j'avais à amener en plus à ton podcast, je trouvais.
Ouais.
C'était cette expérience au Québec. Donc, en fait, ce que ma femme a fait dès qu'elle a été enceinte, elle s'est inscrite sur un site pour les maisons de naissance. Ici, au Québec, je ne connaissais pas du tout ça. Mais tu as le choix d'accoucher soit en hôpital, soit en maison de naissance. Et en maison de naissance, c'est juste des sages-femmes qui s'occupent de toi.
Ouais.
Et qui te suivent tout le long de ta grossesse, qui sont là pendant l'accouchement et qui font le suivi les 6 premières semaines après l'accouchement.
Ok.
Et tout ça, c'est gratuit parce que c'est quand même le service de santé publique. Les places sont limitées. On a eu la chance d'en avoir une. Par contre, ce qu'on a appris lors du premier rendez-vous à la maison de naissance, c'est que l'accouchement se faisait sans péridurale.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de médecin, parce que c'est ça, c'est un accouchement qui n'est pas médicalisé. Sauf que c'est au choix des parents. Tu peux faire ton suivi à la maison de naissance et choisir de faire l'accouchement à l'hôpital quand même après.
Ok.
Si tu changes d'avis, au dernier moment, non. Là, une fois que tu es en travail, tu es en travail. Mais si ça te fait trop peur d'accoucher, mettons, sans péridurale, tu peux aller à l'hôpital où là, tu seras pris en charge par des médecins. Ce que j'ai aimé là à cette maison de naissance, c'est que les sages-femmes, elles laissent vraiment les parents faire selon leur feeling.
Okay.
C'est-à-dire que on te dit pas trop quoi faire, quoi pas faire, quoi manger, quoi pas manger. Je sais que par exemple, quand on mangeait de la viande, des amis nous disaient « Ah, mais vous l'avez bien fait cuire et tout ça. » Ben non, pas tellement. Et puis, parce que personne nous avait dit avant « Il faut super bien faire cuire nos aliments. » Je ne sais pas si c'est en France comme ça aussi.
Si, un peu, ouais.
Ouais. Et juste, on savait pour les sushis. Et encore, on a appris après que dans certaines cultures, ben, tu pouvais manger du poisson cru, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Donc, il n'y avait pas beaucoup, c'était pas très restrictif. Déjà, dès la grossesse.
Ok.
Et on a beaucoup aimé ça.
Alors, en fait, juste pour te dire, mais il n'y a pas beaucoup. En fait, les maisons de naissance, ça existe en France, mais il y en a vraiment très, très peu. J'ai retrouvé un article que je mettrai dans les notes de l'épisode qui a été publié sur Rocky, l'un des magazines que j'ai fondé. Et en fait, en 2015, il n'y a que 8 maisons de naissance qui ont obtenu une autorisation d'ouverture, alors que en fait, au Royaume-Uni, il en existe 169 et en Allemagne, 120. Donc c'est une alternative qui n'existe pas beaucoup, enfin qui existe en France, mais il y en a vraiment très très peu. Je ne sais pas si c'est plus répandu que ça au Québec, sans doute, apparemment.
Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça au Québec, des maisons de naissance.
Ok.
Et est-ce que c'est le est-ce que tu sais si c'est le même principe que c'est vraiment c'est juste des sages-femmes qui s'occupent de ça et
c'est ça. Et en fait, tu accouches là-bas sans péridurale et tu rentres chez toi quelques heures après l'accouchement en fait pour t'occuper de ton bébé chez toi quoi tout simplement.
Ok, mais je savais pas que ça existait. Puis comme je l'avais pas entendu, tu vois.
Bah tu vois, il y en a pas beaucoup, hein, mais.
Non, mais il y en a pas beaucoup ici non plus, je pense pas.
Ok.
Ça se compte, je pense, sur les doigts d'une main ou deux là au Québec, d'après moi. J'ai pas vérifié.
J'irai chercher pendant le montage en fait, et je mettrai éventuellement d'autres sources pour nos auditeurs et nos auditrices québécoises, parce que je pense qu'il y en a. Si vous êtes au Québec, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me fait toujours plaisir. Mais voilà, je le noterai avec grand plaisir dans les notes du podcast quoi.
Tu te sens libre un peu, tu vois, ils disent bien les activités que tu fais, tu continues à les faire jusqu'à ce que tu sois plus capable. Et c'est sûr que par exemple, on faisait un peu d'escalade. C'est sûr que l'escalade, fallait arrêter.
Ouais.
Ça va te faire mal. Mais tu sais, elle disait, si tu fais du vélo, de la course, tout ça, tu continues un petit peu. Ce qui m'a surtout marqué à la maison de naissance, c'était l'accouchement. Donc, je sais pas si tu veux qu'on aille directement là.
Bah, tu m'as dit aussi que tu avais fait un peu d'autonomie.
Ouais. Moi, j'étais peu là pour l'autonomie. J'ai fait, avant la naissance, j'ai fait deux rencontres avec l'autonome. Et j'avais trouvé ça incroyable de voir comment le bébé réagissait dans le ventre. Parce que moi, je l'avais... quand le bébé bouge, tu mets ta main là où il bouge, et puis tu sens qu'il réagit, c'est quelque chose de magique et tout ça qu'on connaît tous. Là. Et l'autonome, son approche, c'était plus de mettre la main sur le ventre de la mère et puis attendre que le bébé vienne à ta rencontre. Et que ce soit lui qui... En gros, qu'ils prennent la décision, qu'ils fassent le premier pas.
Ok.
Et c'est ça. Et donc, je ne sais pas si tu en as fait, toi.
Non, j'ai pas eu cette chance.
On m'a raconté. Non,
non, non, non.
Mais c'est ça, c'est assez magique parce que tu mets un peu ta main n'importe où, puis tu sais, tu n'as même pas besoin de bouger, juste il sent la chaleur, il sent la présence, et puis ça peut mettre plusieurs minutes avant qu'il. Il faut qu'il se déplace là-dedans, mais qu'il va te donner un coup de pied ou un coup de main ou quoi, mais c'est ça, il vient sous ta main et puis là, il te dit bonjour. Et donc, moi, j'avais trouvé ça assez fantastique. Et puis alors, tu fais un petit massage, puis tu peux aller poser ta main ailleurs dans le ventre et puis là, il va refaire toute une gymnastique pour aller se déplacer et se mettre sous ta main ailleurs.
Ah,
donc,
cool.
Si tu veux, c'est juste que je veux dire que ce que j'avais aimé dans l'autonomie, c'était le côté... Tu fais pas juste réagir à une boule que tu vois sortir du ventre, que c'est vraiment, tu laisses le bébé déjà dans le ventre interagir avec toi.
Ok. Et la suite de la grossesse, quelque chose en particulier? Toi, de ton côté, comment tu vis le fait de devenir papa?
Eh bien, je pensais que ce serait beaucoup plus émouvant comme moment, et puis que je serais beaucoup plus impatient que ça.
Ok.
Et en fait, ce moment, je ne sais pas, j'étais content de ce qui allait arriver, mais finalement, je ne l'ai pas du tout vécu dans l'impatience. Je pense que c'est ton esprit qui se prépare tranquillement. Ça lui prend aussi les 9 mois là, de se préparer à « ok, ça y est, ton rythme va changer
». Oui.
Et par contre, moi, ce qui était difficile pour moi, c'est que j'ai passé les 4 derniers mois de grossesse, je travaillais loin en fait, on s'est peu vu avec ma femme.
Ah, t'étais sur un tournage, c'est ça?
Ouais, c'est ça, j'étais sur un tournage à 4 heures de chez moi, donc je rentrais pas. Donc ça, c'était assez difficile, je suis juste revenu les 10 derniers jours en fait. Mais comme elle a accouché 2 semaines à l'avance, j'ai eu que quelques jours, on va dire, avec la fin de la grossesse.
Comment tu vivais justement cette distance?
C'était un peu un déchirement entre j'ai envie de rentrer à la maison et puis à la fois je travaille maintenant pour être capable de pas travailler après.
Ouais.
En gros, j'engrange les sous pour être présent pour les premiers mois du bébé parce que ça, c'était super important pour moi.
Donc en gros, c'est les 4 derniers mois que t'as passé à travailler, c'est ça, te permettre aujourd'hui de pouvoir profiter de ce congé parental, c'est ça?
C'est ça. J'aurais pu l'avoir quand même, mais mettons que là, c'est vraiment financier. Là, c'est histoire de... J'avais besoin des sous quand même.
Ok.
Voilà.
D'accord. Tu regrettes avec le recul cette décision?
Non, pas du tout, parce que là, regarde, ça fait 5 mois que je suis à la maison avec eux, puis c'est fantastique. Et puis en plus, avec le confinement, ça risque de durer encore 2 mois. Oui. donc, c'est parfait comme ça.
Ok, d'accord. Tu me parlais de l'accouchement tout à l'heure? Comment ça s'est passé?
Eh bien, ça s'est passé rapidement.
Ok.
Pour un premier accouchement, entre le moment où elle a eu ses premières contractions et puis le moment où il est sorti, il y a eu 12 heures.
Ah oui.
Ouais. Et donc, elle a eu ses premières contractions pendant la nuit. Et puis, le matin, à 8 heures, j'ai appelé la sage-femme pour dire, bon, ben là, c'est vraiment rapproché, ça dure longtemps. Et elle, qui avait vu ma femme la semaine d'avant, elle disait, ouais, mais elle n'était pas prête du tout, c'était pas dilaté, donc... Attendez encore, rappelle-moi dans 1 heure.
Ok.
Et elle a parlé aussi à ma femme, et puis elle lui dit, oh mais t'as pas l'air du tout détendu. Et elle dit, ben non, j'ai mal. Et puis elle dit, ben détends-toi. Et alors moi je trouvais ça fou, j'étais là, ben elle peut pas se détendre, elle a des contractions, ça lui fait mal. Et en fait, elles en avaient déjà parlé en préparation à l'accouchement.
Ok.
Et à partir de ce moment-là, elle a été incroyable. Elle a réussi à se détendre. Parce qu'on leur disait de faire la feuille morte, tu sais, de tout relaxer, tout ça.
Okay.
Et donc même pendant les contractions, elle arrivait à gérer ça sans se tordre de douleur, sans crier, juste en soufflant et tout ça. Et à partir du moment où la sage-femme lui a dit ça, elle s'est plus tordue de douleur une seule fois, jusqu'à la poussée. Là.
Ah. Elle l'avait vraiment conditionnée, hein, c'est ça.
C'était incroyable. Parce que avant ça, là, toute la nuit, ça a été. C'est ça, c'était des contractions très douloureuses. Et puis où elle se tordait de douleur, elle ne savait pas dans quelle position rester. Elle n'arrêtait pas de changer de position pour essayer de faire passer ça. On avait essayé le bain, mais bon, ça avait été une détente de courte durée.
Mm-hmm.
Et là, voilà, à partir de ce moment-là, elle s'est détendue.
Ok.
Je dis pas que c'était pas douloureux, là. Je dis juste qu'elle a géré sa douleur différemment.
Mm-hmm.
Et puis, l'aptonome nous avait donné des conseils pour, tu sais, des points d'acupression à lui faire, notamment aux orteils ou quoi, pour aider. Ça a super bien fonctionné.
Donc, c'est toi qui appuyais, c'est ça?
Ouais, c'est moi qui appuyais. Il y avait deux méthodes. Il y avait celle-là d'appuyer sur le gros orteil, et l'autre c'était quand elle était au pic de ses contractions, c'était d'attraper sa cuisse et puis de tirer vers le bas. Et elle, le but du jeu, c'était de elle projeter sa douleur, projeter plutôt son esprit au-delà de la douleur. Je sais pas comment expliquer là, mais c'était de traverser la douleur. Et en tout cas, je saurais pas vraiment bien l'expliquer, mais ça a super bien fonctionné. Juste avec ça, elle a été capable de passer tout. Toutes ces contractions.
Ok. Et donc, pas de péridurale alors?
Donc, pas de péridurale. On arrive à la maison de naissance alors que la sage-femme nous avait dit rappelle-nous dans 1 heure. Non, non, là on vient. Et effectivement, le trajet, on avait 40 minutes de trajet jusqu'à la maison de naissance. Et elle avait 3 minutes qui duraient 1 minute. Et puis, elle s'évanouissait quasiment entre chaque. Là.
Ah ouais?
C'était la grosse c'était la panique totale. Ben, moi, j'étais paniqué, en tout cas, en conduisant. Là. Et dehors, c'était la tempête. Il y avait un vent de fou. C'était des rafales, je ne sais plus, je crois que c'était 80 km/h, en tout cas. C'était assez épique. Et donc, on arrive là-bas. Et puis, en fait, elle dit, OK, vous allez en salle de travail tout de suite. C'est pour bientôt. Et effectivement... moins de 3 heures après, c'était fini.
Ok.
Donc, arrivé là-bas, malheureusement, on n'a pas pu avoir la sage-femme qui avait fait le suivi tout au long de la grossesse. Donc, c'était une sage-femme qu'on ne connaissait pas, qui était là, mais qui a été fantastique quand même. Elle nous a mis dans une salle. Alors déjà, la salle super grande, lumineuse, lit double, baignoire, salle de bain, super confort. On lui a fait couler un bain et puis elle a passé là, une heure et demie dans son bain, je pense, avec moi à côté qui continuait à faire les points de pression.
Ok.
Et ce que j'ai trouvé super, c'est que la sage-femme, elle est restée là parce que, tu sais, elle écoutait le cœur du bébé, elle vérifie que tout se passe bien. Des fois, elle me disait, ok, la prochaine contraction, c'est moi qui fais les points d'acupression. Toi, tu vas t'asseoir sur le lit un peu.
Okay.
Elle voyait que j'étais tout pâle et que ça allait pas. Mais sinon, tout le long, elle nous laissait gérer ça comme on voulait, les positions qu'on voulait. Elle faisait des suggestions de temps en temps, mais elle était vraiment présente sans être envahissante. Et déjà, on trouvait ça, pour moi, c'était super valorisant. Parce que ça voulait dire que, ok, t'es capable de t'occuper de ta femme pendant qu'elle vit ces moments-là.
Ok. Pourquoi tu disais que t'allais t'asseoir parce que t'étais un peu palo, c'était compliqué pour toi?
Ouais, mais il y a des moments où, ben, en plus de ça, ben, je sais pas, parce que c'est long quand même, 12 heures, à chaque contraction, à être avec elle et puis à l'accompagner. En plus de ça, elle faisait je sais pas pourquoi, instinctivement, tu sais, elle faisait les râles. On lui avait conseillé de faire des râles pendant les contractions. C'était
okay,
choses comme ça. Donc, à chaque contraction, pour aider justement la douleur et tout ça. Et ben, moi, je l'accompagnais dans chaque contraction à faire les râles aussi.
Okay.
J'avais plus de voix à la fin. Et c'était pas du tout utile. on nous avait pas dit de faire ça, mais je sentais que ça l'aidait. Et puis après, elle a dit non, mais c'était fou parce que ouais, ça l'a aidé de l'accompagner comme ça. Elle a traversé tout ça en étant vraiment, je sais pas, accompagnée. J'étais présent, j'étais là.
Ok.
Mais effectivement, deux trois fois là, quand il commence à y avoir, quand on commence à voir la tête du bébé un peu apparaître et tout ça, c'est sûr que il y a beaucoup d'émotions là-dedans et tout ça. Donc moi, effectivement, il y a des moments où j'étais un petit peu pâle. Et d'ailleurs, je pensais pas pouvoir rester jusqu'au bout. J'étais sûr que j'allais m'évanouir à un moment ou quoi.
Ok.
Parce que je pensais que ce serait trop d'émotions, trop de douleurs à vivre, à voir. Et donc, je m'étais préparé, puis je l'avais préparé, ma femme. J'avais dit, écoute, ça se peut que tu finisses sans moi.
Okay.
Et en fait, non.
Ok. Qu'est-ce qui fait que t'as tenu le bon bout? Alors, est-ce que c'est parce que tu pensais pas réussir à tenir tout le long, c'est ça? Et de ce fait-là, tu t'étais préparé toi-même?
Ouais, peut-être, je sais pas vraiment, peut-être que je m'étais pas mis la pression de devoir tenir jusqu'au bout. Et que, mais en fait, une fois que le moment est là, tu te poses même plus la question. T'es présent, puis tu te poses plus de questions, quoi.
Ok. Comment se passe la rencontre?
Je prends une petite gorgée.
Vas-y, vas-y.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et puis les sages-femmes.
T'as beau être très loin, je sens de l'émotion là chez toi, non?
Ouais, c'est clair.
Tu revis tout ça là?
Ouais, je le revis, j'essaie de le raconter comme je l'ai vécu, mais c'est difficile en fait. C'est difficile de se replonger là-dedans et d'en parler.
Ok.
De trouver les mots et puis de se rappeler exactement c'est quoi que je vivais à ce moment-là. Mais comme je dis déjà sur le moment, pendant le travail, là, j'avais beaucoup de gratitude envers cette sage-femme qui était présente et qui nous soutenait et qui était super rassurante et qui à la fois, elle me laissait vraiment faire, elle nous laissait vraiment, je sais pas, gérer la douleur comme on le sentait.
Ok.
Ce début d'accouchement, comme on le sentait et comme on avait envie de le faire. Et c'est juste, comme je t'ai écrit, je sais plus si je t'ai écrit ça dans mon mail, mais on nous apportait de temps en temps des petites cuillères de miel.
Ah oui.
Pour donner un petit kick de sucre, des jus de fruits et tout ça. J'étais là, waouh, quand même, on est super bien traité. Donc c'est ça, après avoir passé une heure et demie dans le plonger le front et puis à lui faire des points d'acupression, là il y a la poussée qui a commencé. Et là la sage-femme par contre elle a dit ok, au bout d'un moment elle a dit ok, là tu pousses pas comme il faut, donc je vais t'expliquer comment ça marche.
Okay.
Et donc là j'étais plus vraiment actif, on va dire, plus vraiment acteur. Et là, la poussée a commencé, donc tous les pères se rappellent ce que c'est, je pense.
Ouais.
On est complètement inutile.
c'est fou, hein, d'ailleurs. Je pense que, enfin, je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais moi, je pense que globalement, la première grossesse de ma femme, je me suis rendu compte à quel point, en tant que mec, on servait à rien. D'un point de vue de la. Alors, je ne te parle pas pour être présent, etc. Mais je te parle d'un point de vue de la survie de l'humanité, si tu veux. Tu vois, tu as ce moment bizarre où tu te dis, bon, en fait, elle peut accoucher là. Et moi, que je sois là ou que je ne sois pas là, ça ne change strictement rien. Tu vois.
Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, les hommes, il n'y a pas si longtemps, ils ne s'étaient même pas acceptés dans les salles d'accouchement. C'est quand même, je pense que c'est quoi, c'est depuis les années 80 à peu près qu'on a commencé à faire un petit tournant là-dedans.
Écoute, mon père me disait donc moi je suis né en 77 et mon père me disait qu'il faisait partie des tout premiers à pouvoir rentrer dans les salles d'accouchement.
Ouais.
Donc, fin des années 70.
Ben, tu vois, c'est ça. Ouais. Donc ça fait pas si longtemps.
Mm-hmm.
Ouais, non, on n'est pas grand chose, non. et puis moi je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi qui suis un peu un hypochondriaque, de la voir comme ça souffrir comme ça, c'était assez douloureux. Je sais pas comment toi tu l'as vécu.
Ah si, c'était horrible.
Et puis je sais pas, j'ai comme cette, tu sais, les idées noires un peu de se dire, ah, putain, ça va mal, tu sais, est-ce que ça pourrait mal se passer encore, tu sais. On a passé 9 mois, puis il pourrait y avoir un problème. Donc, je sais pas, j'avais toujours ça en arrière de la tête pendant la poussée.
Ok.
Parce que ça avait l'air trop dur. J'avais l'impression qu'elle n'y arriverait pas parce qu'elle avait l'air au bout de ses forces. Et puis, elle a fini par s'allonger sur le lit. Et puis, c'est ça. J'avais dit à la sage-femme que moi, j'aurais aimé peut-être, parce que je sais que c'est quelque chose qu'il proposait. Mais sortir le bébé, en fait, vraiment le mettre au monde.
Ouais.
Parce que je trouvais ça beau, tu sais, le premier contact qu'il ait, c'était avec mes mains, après le ventre de sa mère. Et donc, au moment de. Je vous passe les détails, là, mais j'ai bien stressé parce que c'était OK, apportez les ventouses. J'étais là, quoi
ouais.
Et l'oxygène, OK. Et puis finalement, ils n'ont pas eu besoin de tout ça, mais moi, ça m'a fait super stresser.
Ouais.
Et finalement, au moment de la sortie du bébé, elle m'a proposé, elle m'a dit, c'est le moment maintenant. Et tout ça. Et puis, il y avait la main de ma femme qui était sur mon bras en train de me lacérer la peau. J'étais là, non, c'est bon, je vais rester là, moi, je reste avec elle. Et donc,
c'était une chouette idée à la base, mais on ne va pas le faire.
Ouais, c'est ça. Ben, j'avais dit que j'aimerais si ça se peut, mais non, moi, c'était un moment que j'avais envie de passer avec ma femme pour l'instant. Parce que, je ne sais pas, c'était là où je devais être.
Oui, j'entends bien.
Ça se passe très vite, elle le nettoie très, très, très rapidement. En quelques secondes, il est sur le ventre de sa mère avec une petite serviette. Moi, je fonds en larmes, évidemment, hein, toute l'émotion des 12 dernières heures qui se libèrent. Je vais m'asseoir à côté d'elle. Il se passe encore tous les détails de pour expulser le placenta, tout ça.
Ouais.
Et puis, ce qu'ils font, c'est que maintenant, avant, tu sais, on coupait le cordon tout de suite, on mettait des clampes tout de suite, et puis maintenant, ils laissent le cordon se vider de son sang.
Ok.
Avant de le couper, donc ça dure à peu près une demi-heure après l'accouchement. Et donc, pendant cette demi-heure, on est là, c'est sûr, on fait des bisous bébé, on se regarde, c'est beau. Et je sais pas, ça doit faire une demi-heure qu'il est né, et puis je lui demande... C'est un garçon ou une fille? On ne le savait même pas. On n'avait jamais demandé d'avoir le sexe avant la naissance.
Okay.
Et puis, quand il est né, tout se passe tellement vite, tu ne regardes pas. Les sages-femmes ne nous ont rien dit. Et donc, il est sur elle. Et puis, on ne sait toujours pas, ça fait une demi-heure qu'il est né. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille.
Ah, elles n'ont plus
ça pour dire à quel point on s'en fout si c'est un garçon ou une fille. Ouais.
Elles n'ont plus, elles ne savaient pas, c'est ça?
Elle non plus, elle savait pas, non.
Okay, okay.
Non, on lui a mis sur le ventre de suite, mais elle a pas, tu sais, bah juste
oui.
Après, ça faisait juste quelques secondes qu'il était sorti quand on lui a mis sur le ventre, donc,
okay.
Je sais pas, elle avait pas vu. Et alors, elle y va à tâtons, et puis elle fait, ah, je crois que c'est une fille. Et puis en fait, on soulève, elle fait, ah non, c'est un gars. Voilà. Donc, il y avait le placenta dans la bassine à côté. Tout ça, c'est pour que tu vois le tableau, là.
Ouais.
Le placenta dans la bassine à côté. Le bébé encore relié à ça par le cordon. Et nous qui regardons pour savoir est-ce que c'est un garçon ou une fille.
C'est très animal, quoi.
C'est très animal. C'est ouais. Ça que j'ai trouvé. Et tu vois, ce moment-là, où on laisse le cordon se vider et tout ça, déjà, les sages-femmes nous ont laissé... Je sais qu'on a eu quelques minutes, tout seuls, tous les trois, avant même de couper le cordon. Et je sais pas, c'est un moment super fort et t'es content en fait d'avoir ce moment d'intimité loin des mains médicales, on va dire.
Ouais.
Juste ça déjà, c'était un super moment à partager. Et après ça, donc elle vient pour couper le cordon. En fait, c'est ma femme qui a coupé le cordon. Je sais que dans la tradition, là, c'est beaucoup les hommes qui font ça. Mais on en avait parlé à l'aptonome. Et puis elle disait, c'est bien que ce soit la femme qui le fasse, parce qu'elle dit symboliquement, c'est quand même fort de dire, ok, c'est maintenant, là, t'es plus dans mon ventre, tu sais, t'es une personne à part entière,
ouais.
Et puis c'est moi qui te libère de ça un peu. Et ma femme, ça lui plaisait bien, cette idée de... C'est, ouais, elle trouvait ça important de le faire elle-même. Et puis moi, j'avais aucun intérêt, de toute façon, ça me...
Ah, c'est marrant parce que j'ai eu un... Donc un daron dans l'épisode, le daron qui s'appelle Morgan. Alors à l'heure où on enregistre, il n'est pas encore sorti, ça sortira lundi. Mais c'est la première fois qu'il me disait que lui, il voulait pas couper. Et je l'avais jamais percuté comme ça d'ailleurs. Mais c'est marrant que tu m'en parles parce que il me disait que c'était la première fois que lui, il voulait pas du tout séparer sa mère de son enfant. Tu vois ce que je veux dire ?
La mère de son enfant.
Voilà,
ah, c'est marrant.
Et donc je comprends ce que tu veux dire. Et c'est marrant que l'aptonome vous l'ait proposé aussi dans l'autre sens en fait, que ce soit
ouais.
la mère qui décide de couper le cordon elle-même quoi. Donc c'est intéressant.
Ouais, parce que effectivement quand tu passes symboliquement, ben c'est ça, c'est elle qui vient de passer 9 mois avec lui. C'est normal que ce soit elle qui se dise ok c'est fini là,
ouais,
ça y est,
vrai.
C'est terminé. Et puis voilà. Mais moi je l'aurais fait. Ça c'est pas une histoire que ça me dérangeait pas dans l'idée, c'est juste que j'avais pas absolument envie de le faire.
Okay.
C'était pas un symbole qui me...
Je reviens un peu là-dessus, mais vous saviez pas donc si c'était une fille ou un garçon. Et toi, de ton côté, enfin ni l'un ni l'autre, vous aviez de préférence?
Oui, moi j'aurais préféré. Mais c'est quand de dire ça, parce que après je sais que tu vas poser la question de s'il réécoute le podcast dans 10 ans. Alors ça me fait chier de dire ça, parce que si tu réécoutes ça, je suis super content que ce soit un garçon.
Ouais.
Mais je sais pas pourquoi, j'avais une petite préférence pour une fille. Et je ne saurais pas dire pourquoi, et ça ne m'importait pas énormément, puisque comme je te dis, à la naissance, on s'en fout.
Oui.
Mais c'est ça, je saurais pas pourquoi.
Ok.
Ouais. Toi, tu voulais un gars ?
Non, ouais, je voulais...
Tu t'en foutais, toi ?
Non, moi, je voulais une fille.
et t'as eu quoi ?
J'ai eu deux filles.
Yes ! Non, c'est bon.
Mais ouais, je pense que élever une fille, c'est plus en tant que père. Il y a plein de clichés comme quoi, en tant que père, t'as peur pour ta fille, etc. Et en fait, moi, je pense que c'est vachement plus dur d'éduquer un mec au 21e siècle. Parce que si tu veux en faire un mec bien, entre guillemets, un mec, on va dire, qui respecte... les autres d'une manière générale, un mec qui soit ouvert à ses émotions, etc. Je pense que par rapport à l'image qu'on a de la masculinité d'une manière générale dans la société, t'es obligé de lui enlever des choses, tu vois. Alors qu'en fait, par rapport à l'image qu'on a de ce qu'une fille doit être, pour en faire une fille bien, si tu veux, tu vas lui faire gagner des choses, tu vois, tu vas lui faire gagner de la confiance en elle. Alors qu'en fait, les garçons, il faut que tu leur enlèves de l'agressivité et que tu leur rajoutes des valeurs entre guillemets féminines. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, mais tu viens de le dire, tu leur rajoutes des valeurs féminines. Donc finalement, tu leur enlèves, tu remplaces.
Ouais, c'est ça, je suis d'accord.
Mais est-ce que vraiment, je sais pas.
Je parle aux yeux de la société, tu sais. De ce que les autres garçons vont dire aux garçons, tu vois. Si tu pleures, eh ben, t'es pas un vrai garçon, quoi, tu vois.
Ouais, mais après, je sais pas, comme je te dis, j'en suis au début, là. Je verrai ça dans quelques années. Mais est-ce que juste le fait de vivre dans un environnement, dans une famille qui est féministe, qui est...
Ouais, ouais.
Est-ce que juste ça, ça va pas déjà un peu le former à notre image, j'ai envie de dire.
Bah, ça aide beaucoup, mais après, t'as le reste du monde contre toi.
Ouais.
Ouais, c'est un peu la sensation que j'ai, moi, avec le recul, c'est que t'as d'une manière générale, t'as tous les gens qui vont venir plaquer leurs stéréotypes, mais jamais méchamment, hein, tu vois, en plus, c'est ça le pire, hein, sur ton enfant. Et ça commence souvent dès tout bébé, en fait, tu vois. Il suffit que ta fille, elle soit calme dans son berceau, et on dit, ah, bah, c'est une fille, c'est normal qu'elle soit calme, tu vois.
Ouais.
Bon, voilà.
Ouais, ouais.
Petite parenthèse, mais en tout cas, c'est intéressant que t'en avais, que ça vous intéressait pas, et que, en fait, au bout de 30 minutes, vous vous êtes demandé, tiens, en fait, qu'est-ce qu'on a fait.
Ouais, c'est pour dire à quel point, finalement, j'avais une petite préférence, mais finalement, c'était pas si important.
Ok.
Pas du tout.
Après l'accouchement,
pour l'éducation, effectivement, c'est très intéressant, et puis c'est quelque chose qui va sûrement me... Je vais sûrement changer d'idée d'ici à son adolescence. que juste l'idée d'être élevé dans un environnement comme ça, peut-être qu'il sera capable de se dire, bon, mais ce que la société renvoie, ben, c'est peut-être pas la bonne chose. Mais alors, c'est sûrement utopiste.
Mais t'as raison, fondamentalement, c'est ça qui aide, je pense, le plus. Mais en fait, moi, le premier... truc, ça a été les premières fois, dès qu'elle est allée chez une nounou, par exemple, tu vois, et que la nounou, d'un coup d'un seul, elle considérait que parce que c'était une fille, il fallait qu'elle mette des rubans roses dans les cheveux plutôt que des rubans violets, alors qu'elle voulait un ruban violet. Et c'est là que tu te dis, oh putain, ça commence.
c'est incroyable, mais j'allais au magasin. C'est pareil, je vois encore les rayons bleus pour les gars et les roses pour les filles. Je fais, mais ça se peut pas, ils sont encore comme ça.
Et bah si.
On n'apprend rien. Là.
On progresse petit à petit.
Mais quand même, il y a quelque chose dont je suis très content. Ça va être un petit chauvin ce que je dis, mais je suis content qu'ils grandissent au Québec.
Ouais.
Parce que de mon expérience, je dis pas que tous les que le Québec est mieux que la France à tout point de vue, mais je trouve quand même beaucoup moins macho comme environnement et beaucoup plus respectueux envers les femmes, au moins au niveau institutionnel et même personnel. Je trouve que les gens sont plus se permettent moins d'être macho en public. Je dis pas qu'ils le sont pas dans le privé, mais les gens se permettent beaucoup moins de choses et c'est moins d'être raciste ou quoi qu'on l'est en France. Donc c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup plu quand je suis arrivé ici. Alors c'est peut-être juste dans mon coin, je veux pas faire de généralité là, mais là où on est, je trouve ça très agréable.
J'ai l'impression que c'est un sentiment qui est assez partagé.
Je crois aussi.
Par les Français aussi. que j'entends parler du Québec et des Québécois d'une manière générale. Quoi.
Bah écoute, c'est une des raisons pour lesquelles on est resté, hein, c'est pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles on est resté, c'est qu'on a trouvé le climat social beaucoup plus détendu.
Ouais.
Genre beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui.
C'est peut-être pas la raison principale pour laquelle on est resté, mais je pense que c'est la raison principale pour laquelle on reviendra pas.
Ok, je comprends. Pour revenir à ton fiston, comment ça se passe les premiers jours avec lui? Est-ce que dans la maison de naissance, vous rentrez assez rapidement à la maison après l'accouchement, c'est ça?
Ouais, on passe la première nuit. Elle a accouché en début d'après-midi. On passe quand même la première nuit là-bas. Je trouve ça fantastique parce que la nuit là, on nous dit rien. Juste, elles s'en vont, mais on sait même pas. Ok, est-ce qu'on le met dans le berceau? Est-ce que non, on va le laisser sur nous. On le laisse sur nous. Ok, il dort sur nous. Et puis il n'y a pas eu de recommandation de la part des sages-femmes.
Okay.
On savait que si on avait des questions, elles étaient là. Ils nous ont dit, on est toujours là. Vous ouvrez la porte, vous demandez n'importe quoi. Mais on sent vraiment que elles veulent pas interférer en gros avec notre instinct, on va dire.
Ok.
Et d'ailleurs, juste pour revenir à l'après-accouchement, où on nous apporte des plateaux de fruits, yaourts, fromage, c'est incroyable. Alors, on est servi comme des rois. Pendant qu'elle s'occupe de ma femme qui fait les soins d'après accouchement, on me dit ok, t'enlèves ton t-shirt et puis maintenant c'est toi qui le prends parce que là on s'occupe de ta femme. Donc là c'est ça, c'est direct là, ça fait une demi-heure qu'il est né puis on me le met dessus. Ah, c'était fantastique. Et puis on s'occupe pas de moi. Maintenant on s'occupe de ta femme et puis moi je suis tout seul avec mon bébé, je l'ai jamais eu dans les bras et puis fantastique. Et une fois que les soins sont terminés, elles vont juste venir vérifier de temps en temps, tu sais, voir qui fait son premier pipi, voir les trucs qu'il faut checker. Mais sinon, on est complètement livré à nous-mêmes, à vivre ça, à appeler la famille et puis juste être tous les trois dans la chambre jusqu'au lendemain.
Ça fait un peu peur ou...
Ouais, ça fait un peu peur. Ben, tu sais, tu dis, nous, on a pris le parti, ok, il va dormir. Parce que comme c'était un bébé tout tout petit, hein, il faisait même pas 2,5 kg. Donc il était limite besoin de soins. Et donc elle disait de le garder le plus possible en peau à peau. Alors c'est un terme qu'il y a aussi en France, j'imagine.
Oui.
Le peau à peau,
ouais.
Qui est très développé.
Ouais.
Donc de le garder en maximum le peau à peau pour qu'il garde la chaleur. Chaleur du corps, donc on a dit ben on va dormir comme ça alors. Et on a dû rentrer chez nous le lendemain parce que je t'avais parlé de la tempête qu'il y avait eu.
Oui.
Chez nous, il n'y avait pas d'électricité. Mais alors, ici, quand il n'y a pas d'électricité, ça veut dire qu'il n'y a pas de chauffage, qu'il n'y a pas d'eau. Donc on est rentré chez nous. On est le 1er novembre. Le 2 novembre, quand on rentre, il fait 0 degré dehors, à peu près. Il y a quelques flocons de neige qui tombent. Et puis, on n'a pas d'eau chaude, on n'a pas d'électricité et on n'a même pas d'eau froide, en fait. Parce que, comme on vit à la campagne, ici, ce n'est pas un réseau, si tu veux, c'est t'as ton puits, t'as tu as une pompe ouais. qui alimente ta maison à toi. Tu n'as pas d'électricité et la pompe, elle ne fonctionne pas. Donc, les deux premières nuits, deux premiers jours et deux premières nuits du bébé à la maison, c'est l'enfer. Ben, c'est l'enfer. En fait, non, nous, on a super bien vécu ça, mais de l'imaginer, là, de se dire « Ah non, mais ça se peut pas. » Donc, on a fait des feux dans la cheminée, on est allé prendre de l'eau chez les voisins qui avaient une génération. On a fait chauffer l'eau sur des camping gaz. Et en plus de ça, nous, on s'était dit, on va faire couche lavable, lingette jetable. Sauf qu'à chaque fois qu'il faut lui changer la couche, ça veut dire qu'il faut faire chauffer l'eau sur ton camping, ouais. ton camping gaz. Le lendemain, on est parti acheter des couches, des lingettes. Voilà. Mais après, on s'est rattrapé. Mais voilà, donc les premiers jours, c'était comme ça. C'était camping et... petite parenthèse, le chien s'était fait asperger par un putois. Donc, t'as schlingué pas mal dans la maison.
Ah ouais.
ouais. Oh, ah non, c'était la totale. Quand on est rentré, ça nous faisait rire tellement c'était trop là. Mais écoute, on a aimé ça. Ça veut dire qu'on n'avait pas d'écran, on n'avait rien. On a juste vécu pendant deux jours là au contact du bébé, 100% contre nous. Notre petit cocon. On avait la chance d'avoir notre belle-mère aussi à la maison qui nous a énormément aidé, comme tout le monde. C'est beaucoup de temps à le regarder, le caresser, puis le regarder téter sa mère. Je trouve ça fantastique. Le regard qu'il fait quand il tète sa mère. Et voilà, c'est assez flou en fait. Tu vois, tu me demandes de me rappeler des premiers jours. C'est assez flou. Je me rappelle le chaos un peu de notre arrivée.
Ouais.
Mais émotionnellement, tu vois, je suis pas capable de me rappeler vraiment comment c'était.
C'était. Est-ce que ça, c'est parce que.
Trop vite.
Est-ce que c'est parce qu'il y en avait trop et que tu as préféré un peu les mettre sous le tapis, les émotions à ce moment-là, non?
Je sais pas, ou juste il y en avait tellement que je suis pas capable de les
de les discerner.
De les emmagasiner, de les. Ouais, je sais pas. Discerner peut-être. Mais je sais que c'était super chouette, mais tu vois, c'est assez fou, finalement. Ouais.
Bon, donc maintenant, votre bébé a 5 mois, c'est ça?
Ouais, 5 mois.
T'es encore en congé paternité pour un... Alors, j'imagine, forcément dû au confinement, mais t'avais prévu à la base de repartir au travail...
Au travail en mai. J'étais supposé reprendre en mai, okay. Mais là, c'est sûr que ça prend du retard et je sais pas du tout quand. Mais c'est ça, c'est le système du congé parental ici est absolument fantastique.
Vas-y, raconte
c'est-à-dire
un peu.
Que, alors attends, je vais juste donner les chiffres, j'ai regardé sur le site là juste avant.
Ouais.
C'est que tu as un congé maternité donc pour la mère de 18 semaines et un congé paternité déjà pour le père de 5 semaines.
Ouais.
Donc je ne sais pas combien c'est en France.
En France, c'est 11 jours.
11 jours, ok. 11 jours, waouh. Ouais. Mais après ça, t'as un congé parental. En gros, t'as deux choix. Nous, on a pris un choix. C'est 25 semaines de congé parental que tu peux partager comme tu veux entre le père et la mère.
Ah, yes.
Donc, ça fait... Et en gros, selon ce que tu choisis comme régime, tu peux avoir jusqu'à 32 semaines.
Wow.
Et ouais, à 70% de ton revenu.
Okay.
Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Et puis, on a décidé que moi, je prenais le congé parental au complet. Parce qu'elle, elle travaille de la maison, donc elle a repris tranquillement il y a quelques semaines.
Ok.
Et donc, c'est ça. Donc, ça permet aux parents d'être présents pour les premiers mois. Et c'est super. Je trouve ça important. Et puis, je trouve ça en dit long sur la société dans laquelle on vit, en fait.
Mm.
Le congé parental.
Non, je suis assez d'accord avec toi et ouais, y a un vrai débat en France. Apparemment au Québec, vous êtes. C'est un peu ce que tu disais aussi, c'est que sans doute c'est un peu à l'image de ce qu'est la société, c'est que
ouais.
Y a en France donc t'as le droit à 3 jours au moment de la naissance, si je me trompe pas, et après t'as droit à 11 jours que tu peux venir poser ou pas comme tu le souhaites.
Okay.
Mais donc c'est pas beaucoup et en fait je mettrai dans les liens on a eu notamment un épisode avec un garçon qui s'appelle Alexandre et qui a un blog qui s'appelle Papa Plume et qui raconte un petit peu enfin que lui qui lui milite pour un congé paternité un peu plus long quoi parce que
c'est clair.
En fait au bout de 10-15 jours t'as la sensation que... Alors, t'es content parce que tu retournes au boulot et il y a un côté un peu... je vais pouvoir raconter à mes collègues ce qui se passe, etc. Mais en fait, assez rapidement, tu te rends compte que c'est fini, en fait. Tu laisses désormais ton bébé qui est encore tout petit et que tu vas perdre le contact avec lui assez rapidement, quoi.
Je sais pas comment ils font, mais ne serait-ce qu'au niveau du sommeil, comment ils font ? Comment ça se peut ? Je comprends pas. Et puis la mère toute seule, la déprime totale, en tout cas. Je trouve qu'il y a un problème là.
Ah ouais, j'entends.
Parce que je trouve qu'on n'est pas trop de deux pour faire ça bien, là, si tu veux faire ça sans stress et puis sans. Et vouloir dormir un peu, quoi, parce que. À deux, tu peux organiser des stratégies un peu.
Ouais.
Quand il y en a un qui doit aller travailler, c'est ça, il faut qu'il dorme aussi, quoi.
L'une des questions qui revient aussi souvent, c'est, et notamment dans les quelques derniers épisodes que j'ai diffusés, c'est comment ça s'est passé pour trouver ta place de papa ?
Super naturellement. Déjà, ce qu'on a fait la nuit, tu sais, il se lève beaucoup pour téter. Ouais. Donc, moi, assez vite... je dormais pendant les tétés, des fois même je me réveillais même plus. Il dormait en cododo, juste à côté de nous.
Ok.
Mais malgré ça, je me réveillais même plus des fois quand il réclamait le sein. Et le matin, ce que je faisais, c'est que moi, je me levais entre 6 et 8 heures là, quand il se réveillait pour de bon. Et puis je le prenais avec moi, soit en écharpe ou en porte-bébé. Et puis je laissais ma femme dormir jusqu'à ce qu'elle se réveille naturellement ou que lui faille vraiment qu'il retourne téter. Donc finalement ma place de père, je trouve ça a été ces moments le matin avec le bébé contre moi pendant 2-3 heures là. Et puis c'est pas ça a comme créé un lien, j'ai trouvé fort. Et puis donc je sais pas. La place de père, naturellement, en fait, je ne saurais même pas l'expliquer.
Ouais, ça n'a pas l'air d'avoir été un problème.
Comme je suis présent tout le temps, c'est sûr que ma place est auprès de lui, donc.
Ouais. Bah, ok. Écoute, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est tant mieux.
Non, c'est ça.
Ok. Tu racontais tout à l'heure que vous êtes parti pour rester au Québec, en tout cas pour pas rentrer en France. Votre objectif, c'est donc de faire grandir ton enfant, vos enfants. Peut-être vous allez en faire d'autres derrière.
On aimerait ça en avoir un deuxième.
Ok. Dans ce pays, c'est ça ?
Ouais, vraiment. Pour l'instant, on n'a pas de projet de rentrer en France.
Ok.
Pour les vacances.
Ok. À part pour les vacances. Bon, l'heure est venue de la question. De la fameuse question.
Ouais. Vas-y.
Alors, comment ça va ? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton fiston s'il écoute ce podcast dans 10 ans, à part le fait que, effectivement, tu aurais préféré éventuellement avoir une fille, mais que tu savais pas trop pourquoi ?
Je savais pas trop vous, mais que je suis très content que ce soit un garçon.
Ben oui.
Mais en plus, je suis très fâché contre toi, moi-même, pas toi-même, moi-même.
Ok.
Parce que je m'étais dit à celle-là, faut que je la prépare parce que de questions, je sais qu'il va me la poser, puis je vais être incapable de répondre naturellement. Et en fait, j'ai toujours pas de réponse. Je sais pas ce que je veux lui dire. À part que j'espère que j'aurai réussi à lui transmettre de nos valeurs et puis de. Et puis, ça c'est important, qu'il y aura transmis nos valeurs et puis qu'on fasse plein d'activités ensemble.
Ok.
Qu'on s'aime, qu'on soit proches et puis qu'on soit une famille soudée.
Ok. Mais c'est déjà vachement bien, hein ?
Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà.
Bon, Antoine, merci beaucoup pour ton temps.
Eh bien, merci à toi.
Et puis, je te souhaite et je vous souhaite à tous les trois une belle vie, hein, vraiment. Ça a l'air d'être chouette.
Ouais, merci. Et puis, merci de m'avoir permis de revenir un peu sur ça. Des fois, c'était difficile de trouver les mots, mais ça fait plaisir de. Ouais, ça fait plaisir.
Ah, et tes mots, ils étaient très bien, tu sais. T'inquiète pas.
Ok.
Merci, Antoine.
Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur FabFlorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.